Chapitre 54 Une souricière où se prend le rat. 5 jours après la disparition du nabab, Madame du Val-Noble était, à 9 heures du matin, assise au chevet du lit d'Esther et y pleurait, car elle se sentait sur un des versants de la misère. « Si du moins j'avais 100 louis de rente! Avec cela, ma chère, on se retire dans une petite ville quelconque, et on y trouve à se marier. » « Je puis te les faire avoir, » dit Esther. « Et comment ? » s'écria Madame du Val-Noble. « Oh, bien naturellement. Écoute, tu vas vouloir te tuer. Joue bien cette comédie-là. Tu feras venir Asie et tu lui proposeras 10 000 francs contre 2 perles noires en verre très mince où se trouve un poison qui tue en 1 seconde. Tu me les apporteras. Je t'en donne 50 000 francs.
Pourquoi ne les demandes-tu pas toi-même ? Dit Madame du Val-Noble.
Asie ne me les vendrait pas.
Ce n'est pas pour toi, dit Madame du Val-Noble.
Peut-être.
Toi, qui vis au milieu de la joie, du luxe, dans une maison à toi, la veille d'une fête dont on parlera pendant 10 ans, qui coûte à Nucingen 10 000 francs? On mangera, dit-on, des fraises au mois de février, des asperges, des raisins, des melons. Il y en aura pour 1 000 écus de fleurs dans les appartements. Que dis-tu donc ? Il y a pour 1 000 écus de roses dans l'escalier seulement. On dit que ta toilette coûte 10 000 francs.
Oui, ma robe est en point de Bruxelles. Et Delphine, sa femme, est furieuse. Mais j'ai voulu avoir un déguisement de mariée.
« Où sont les 10 000 francs ? » dit Madame du Val-Noble.
« C'est toute ma monnaie, » dit Esther en souriant. « Ouvre ma toilette. Ils sont sous mon papier à papillotes. »
« Quand on parle de mourir, on ne se tue guère, » dit Madame du Val-Noble. « Si c'était pour commettre... »«
Un crime ? Va donc, » dit Esther en achevant la pensée de son amie qui hésitait. « Tu peux être tranquille, » reprit Esther. Je ne veux tuer personne. J'avais une amie, une femme bien heureuse. Elle est morte. Je la suivrai. Voilà tout.
Es-tu bête ?
Que veux-tu ? Nous nous l'étions promis.
Laisse-toi protester ce billet-là, dit l'ami en souriant.
Fais ce que je te dis et va-t'en. J'entends une voiture qui arrive et c'est Nucingen, un homme qui deviendra fou de bonheur. Il m'aime, celui-là. Pourquoi n'aime-t-on pas ceux qui nous aiment ?
Ah, voilà, dit Madame du Val-Noble, c'est l'histoire du hareng qui est le plus intrigant des poissons.
Pourquoi ?
Eh bien, on n'a jamais pu le savoir.
Mais va-t'en donc, mon ange, il faut que je demande tes 50 000 francs.
Eh bien, adieu. Depuis 3 jours, les manières d'Esther avec le baron de Nucingen avaient entièrement changé. Le singe était devenu chatte et la chatte devenait femme. Esther versait sur ce vieillard des trésors d'affection, elle se faisait charmante, ses discours, dénués de malice et d'âcreté, pleins d'insinuations tendres, avaient porté la conviction dans l'esprit du lourd banquier, elle l'appelait Fritz, il se croyait aimé.
« Mon pauvre Fritz, je t'ai bien éprouvé, » dit-elle. « Je t'ai bien tourmenté. Tu as été sublime de patience. Tu m'aimes, je le vois, et je t'en récompenserai. Tu me plais maintenant, et je ne sais pas comment cela s'est fait, mais je te préférerai à un jeune homme. C'est peut-être l'effet de l'expérience. À la longue, on finit par s'apercevoir que le plaisir est la fortune de l'âme. Et ce n'est pas plus flatteur d'être aimé pour le plaisir que d'être aimé pour son argent. Et puis, les jeunes gens sont trop égoïstes, ils pensent plus à eux qu'à nous, tandis que toi, tu ne penses qu'à moi, je suis toute ta vie. Aussi ne veux-je plus rien de toi, je veux te prouver à quel point je suis désintéressée.
« Je ne vous ai rien tonné, » répondit le baron, charmé. « Je compte vous apporter demain 30 000 francs de rente, c'est mon cadeau de noces. »
Esther embrassa si gentiment Nucingen qu'elle le fit pâlir, sans pilule. « Oh ! Dit-elle,
N'allez pas croire que ce soit pour vos 30 000 francs de rente que je suis ainsi. C'est parce que maintenant, je t'aime, mon gros Frédéric.
Oh, mon Dieu ! Birquoi ma foire éprouffée ! J'eusse aidé si heureux depuis 3 mois.
Est-ce en 3% ou en 5, ma bichette ? Dit Esther en passant les mains dans les cheveux de Nucingen et les lui arrangeant à sa fantaisie.
En droit, j'en avais fait tes masses.
Le baron apportait donc ce matin l'inscription sur le grand livre. Il venait déjeuner avec sa chère petite fille, prendre ses ordres pour le lendemain, le fameux samedi, le grand jour.
Tenez, ma petite femme, ma seule femme, dit joyeusement le banquier dont la figure rayonnait de bonheur. Voici de quoi payer vos dépenses de cuisine, bir le restant de vos jours.
Esther prit le papier sans la moindre émotion, elle le plia et le mit dans sa toilette.
Vous voilà bien content, monstre d'iniquité,
dit-elle en donnant une petite tape sur la joue de Nucingen.
De me voir acceptant enfin quelque chose de vous.
Je ne puis plus vous dire vos vérités, car je partage le fruit de ce que vous appelez vos travaux.
Ce n'est pas un cadeau, ça, mon pauvre garçon. C'est une restitution. Allons, ne prenez pas votre figure de bourse. Tu sais bien que je t'aime.
M'appelle Esther, mon ange d'amour, dit le banquier. Ne me parlez plus ainsi. Tenez, ça me serait égal que la der entière me prît bien une folère, si j'étais un honnête homme à faux yeux. Je vous aime toujours de plus en plus.
C'est mon plan, dit Esther. Aussi ne te dirai-je plus jamais rien qui te chagrine, mon bichon d'éléphant, car tu es devenu candide comme un enfant. Parbleu, gros scélérat, tu n'as jamais eu d'innocence. Il fallait bien que ce que tu en as reçu en venant au monde reparût à la surface. Mais elle était enfoncée si avant qu'elle n'est revenue qu'à 66 ans passés et amenée par le croc de l'amour. Ce phénomène a lieu chez les vieillards. Et voilà pourquoi j'ai fini par t'aimer. Tu es jeune, très jeune. Il n'y a que moi qui aurais connu ce Frédéric-là, moi seul,
car tu étais banquier à 15 ans. Au collège, tu devais prêter à tes camarades une bille à la condition d'en rendre deux.
Elle sauta sur ses genoux en le voyant rire.
Eh bien, tu feras ce que tu voudras. Eh, pille les hommes, va, je t'y aiderai. Les hommes ne valent pas la peine d'être aimés. Napoléon les tuait comme des mouches. Que ce soit à toi ou au budget que les Français paient des contributions, qu'est-ce que ça leur fait? On ne fait pas l'amour avec le budget, et ma foi.
Va, j'y ai bien réfléchi. Tu as raison. Tons les moutons. C'est dans l'Évangile, selon Béranger. Embrassez votre Esther. Ah, dis donc, tu donneras à cette pauvre Valenoble tous les meubles de l'appartement de la rue Thébou. Et puis demain, tu lui offriras 50 000 francs. Ça te posera bien. Vois-tu, mon chat, tu as tué Falex. On commence à crier après toi. Cette générosité-là paraîtra babylonienne et toutes les femmes parleront de toi. Oh, il n'y aura que toi de grand, de noble dans Paris, et le monde est ainsi fait que l'on oubliera Falex. Ainsi, c'est, après tout, de l'argent placé en considération.
Tu as raison, mon ange.
Tu connais le monde, répondit-il. Tu seras mon conseil.
Mais, reprit-elle, tu vois comme je pense aux affaires de mon homme, à sa considération, à son honneur. Va me chercher les 50 000 francs.
Elle voulait se débarrasser de monsieur de Nucingen pour faire venir un agent de change et vendre le soir même à la bourse l'inscription.
Et pire quoi tout de suite ?
Demanda-t-il.
Dame, mon chat, il faut les offrir dans une petite boîte en satin et en envelopper un éventail. Tu lui diras, voici, madame, un éventail qui, j'espère, vous fera plaisir. On te croit Turcaret, tu passeras Beaujon.
Charmant, charmant ! S'écria le baron. J'aurai donc de l'esprit maintenant ?
Oui, je répète vos mots.
Au moment où la pauvre Esther s'asseyait, fatiguée de l'effort qu'elle faisait pour jouer son rôle, Europe entra.
Madame,
dit-elle. « Voici un commissionnaire envoyé du quai Malaquais par Célestin, le valet de chambre de M. Lucien. »«
Qu'il entre ? Mais non, je vais dans l'antichambre. » »«
Il a une lettre de Célestin pour madame. » Esther se précipita dans son antichambre, elle regarda le commissionnaire et vit en lui le commissionnaire pur sang.
« Dis-lui de descendre, » dit Esther d'une voix faible, en se laissant aller sur une chaise, après avoir lu la lettre.
« Lucien veut se tuer, » ajouta-t-elle à l'oreille d'Europe. « Monte-lui la lettre, d'ailleurs. » L'abbé, qui conservait son costume de commis-voyageur, descendit aussitôt, et son regard se porta sur-le-champ, sur le commissionnaire, en trouvant dans l'antichambre un étranger.
« Tu m'avais dit qu'il n'y avait personne, » dit-il dans l'oreille d'Europe.
Et par un excès de prudence, il passa sur-le-champ dans le salon, après avoir examiné le commissionnaire. Trompe-la-Mort ne savait pas que depuis quelque temps, le fameux chef du service de sûreté qu'il avait arrêté dans la maison Vauquer était un rival. Ce rival était le commissionnaire.
« On a raison, » dit le faux commissionnaire à Contenson qui l'attendait dans la rue. « Celui que vous m'avez dépeint est dans la maison. Mais ce n'est pas un Espagnol, et je mettrai ma main au feu qu'il y a de notre gibier sous cette soutane. »
« Il n'est pas plus prêtre qu'il n'est Espagnol, » dit Contenson.
« J'en suis sûr, » dit le chef de la brigade de sûreté.
« Oh, si nous avions raison, » dit Contenson.
Lucien était en effet resté 2 jours absent, et l'on avait profité de cette absence pour tendre ce piège. Mais il revint le soir même, et les inquiétudes d'Esther se calmèrent.